Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, dans les temps de relativisme, de perte des repères moraux et spirituels que nous vivons, dans ces temps de confusion où trop souvent le mal est appelé bien et le bien mal, il est temps plus que jamais de rappeler les grandes réalités proclamées par la parole de Dieu. Et en particulier que nous aurons tous, sans exception, à rendre compte devant Dieu de la manière dont nous avons cherché Dieu, de la manière dont nous avons répondu à l'appel de Dieu qui s'adresse à chacun sans exception encore, et de la manière dont nous aurons géré notre vie. L'Écriture nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Voilà la solennelle réalité qui doit nous faire nous poser ensuite et en même temps la grande question « Où passerai-je l'éternité ?» Là encore, la parole de Dieu tout entière est très claire. Il n'y a que deux lieux, le paradis ou l'enfer. Il n'y a que deux endroits, le ciel ou la perdition. Tous les auteurs bibliques nous le disent clairement. Et parmi eux tous, c'est le Seigneur Jésus, dans les évangiles comme dans l'Apocalypse, qui en parle avec le plus d'urgence, le plus d'emphase et le plus de force, de la manière la plus frappante. C'est évidemment de cela qu'il nous faut parler ce soir, en ouvrant ensemble la parole de Dieu. Mais avant cela, voilà un beau témoignage de ce que le Seigneur peut et veut faire pour sauver des vies, pour les faire passer de la puissance de Satan à Dieu et de la mort à la vie. Voici donc ce témoignage. Un groupe de jeunes punks, au crâne rasé, s'assemblait comme d'habitude sur la place Weissenberg à Munich en cette soirée du tout début des années 80. Soudain, l'un d'entre eux se précipita sur un homme élégant qui sortait d'une Mercedes. Proférant les pires injures et le menaçant d'une arme, il lui arracha l'attaché case qu'il portait sous le bras. Mais un policier à moto, garé tout près, avait suivi la scène et le délinquant ne lui échappa pas. Menottes au poignet, il fut conduit au poste de police, puis mis en détention préventive à la prison de Stadelheim pour tentative de vol sous la menace d'une arme, avec la mention « individu dangereux » capable de porter atteinte à la vie et au corps d'autrui. L'agresseur s'appelait Antonio Bueno. Il était fils d'un père espagnol et d'une mère allemande. Dès son jeune âge, les échecs s'étaient multipliés dans sa vie. À l'école, tout allait mal. Les relations avec ses parents se dégradaient chaque jour davantage. Son père, qui avait pour lui des projets ambitieux, ne supportait pas ses mauvais résultats scolaires. Même s'il prenait connaissance d'une mauvaise note en rentrant très tard de son travail, il n'hésitait pas à réveiller son fils pour lui infliger une sévère punition. Avec le temps, la peur qu'Antonio avait de lui se transforma en haine. Souvent, il faisait des fugues de plusieurs jours, se nourrissant de quelques larcins commis dans les rayons d'un supermarché ou dans la cuisine d'un restaurant. À 16 ans, il quitta l'école et aussi ses parents. Il avait trouvé une place comme apprenti chez un boulanger et il se croyait enfin libre. Mais la haine avait rempli son cœur et les dernières paroles de ses parents revenaient constamment à sa mémoire. « Tu n'arriveras jamais à rien, tu n'es qu'un nul, un imbécile. » Pour penser à autre chose, il restait très souvent dans des discothèques jusqu'à l'heure où il fallait reprendre le travail. Sous l'effet de l'alcool et du hash, il tentait de décharger son agressivité dans le rythme excitant du rock et des danses sauvages, mais sa haine ne faisait que grandir. Elle s'étendait à tous, mais surtout aux étrangers, bien qu'il en fût un lui-même. Il se mit à étudier la vie d'Adolf Hitler, et son admiration pour le Führer grandit rapidement. Il s'inscrivit au parti néo-nazi, confectionnait des brassards avec la croix gammée et badigeonnait ce sigle partout. Lorsqu'il y avait des bagarres contre des minorités ethniques, il était toujours de la partie, jusqu'au jour où il se fit prendre par ce policier qu'il n'avait pas vu sur sa moto. C'était l'occasion pour la police de perquisitionner dans sa chambre. Elle y trouva une lettre qu'il avait écrite peu avant, adressée au chef d'un groupe néo-nazi d'extrême droite, dans laquelle il exprimait son admiration pour un poseur de bombes kamikaze qui avait causé la mort de 4 Anglais. Son seul regret était que la bombe n'ait pas explosé dans une cité d'immigrés où elle aurait pu éliminer au moins 200 non-ariens. La signature était précédée du salut nazi Heil Hitler. Dans la prison de Stadelheim, Antonio Bueno se trouva soudain dans une solitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. Coupé de ses amis, il pensait que tout était fini pour lui. Mais un jour, il reçut une lettre d'Alexandra, une jeune fille avec qui il avait vécu, mais qui avait rompu les relations avec lui lorsqu'il avait rejoint les punks. Elle racontait dans sa lettre qu'elle avait commencé à fréquenter un groupe de chrétiens dont la vie sobre et désintéressée l'impressionnait beaucoup. Elle lui parlait de l'amour de Dieu pour tous les hommes, y compris pour lui, Antonio. Dans toute autre circonstance, il aurait jeté un tel message à la poubelle. Mais dans l'isolement de sa cellule, il se mit à réfléchir sur sa vie et sur ses paroles toutes simples. Une fois sorti de prison, il retrouva bien vite ses anciennes habitudes de vie. Son cœur était tout aussi rempli de haine et de violence, et son comportement s'inspirait des chansons les plus révolutionnaires et anarchistes des groupes comme Sex Pistols, Duff et Yuka. « Je suis un antichrist, je suis un anarchiste, je sais ce que je veux et je sais où l'obtenir. Je voudrais anéantir tous les passants, je veux vivre sans foi ni loi. » Ce message, tiré de « Anarchie » du groupe Yuka, comme d'autres semblables, était devenu le leitmotiv de sa vie. Il fit venir des amis punk dans la chambre où il vivait, mais très vite, le propriétaire les chassa. Une fois de plus dans la rue, il essaya de renouer avec ses parents. Ils refusèrent de le recevoir. Entre-temps, le groupe de chrétiens dont lui avait parlé Alexandra proposa de l'héberger. Comme l'hiver approchait, il n'avait guère d'autre choix. Cordialement accueilli dans leur communauté, il eut l'occasion de les voir vivre et fut très impressionné par un mode de vie qui lui était totalement étranger. Jamais il n'entendait un mot méchant entre eux. Et selon sa propre expression, il régnait chez eux une atmosphère propre et noble. Il rayonnait d'amour et de gentillesse, qualité insaisissable pour le punk violent qu'il était. Déstabilisé par cet accueil, il répondit d'abord par des provocations et des menaces. Mais parfois, il acceptait d'assister à un office religieux, accompagné d'autres punks, tous dans un accoutrement tellement excentrique qu'il faisait peur. Profondément irrité de voir que ces gens avaient une paix et une joie qu'il n'arrivait pas à se trouver lui-même, il noyait son désespoir dans l'alcool et fuyait la réalité dans la drogue. Arrivé au bout du rouleau, ne voyant aucune issue à sa situation, il alla trouver Alexandra et lui dit « Recommençons à zéro. J'en ai assez des punks et de ma façon d'être. » « Un seul peut nous venir en aide, c'est Jésus-Christ, » lui répondit Alexandra. Alors, d'un pas décidé, il retourna chez les chrétiens, ôta son accoutrement de punk et mit des vêtements qu'on lui avait donnés. Le lendemain, il se rendit chez le juge de tutelle dont il dépendait. Celui-ci réussit à lui trouver un emploi de plongeur dans un restaurant. Il se mit à lire la Bible et bientôt son attention fut attirée par une parole du Christ dans l'évangile de Jean. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Croyant de tout son cœur à la véracité de cette promesse de Christ, il fit monter du fond de son cœur une ardente prière, un cri au secours, une demande de pardon. Cette prière, accompagnée d'une décision profonde de suivre désormais un autre chemin, fut le premier pas dans une vie nouvelle, tellement différente qu'Antonio, le punk violent, rempli de haine, ne fut bientôt plus qu'un souvenir. Pour la première fois de sa vie, il ressentit cette paix et cette joie qu'il avait tant enviée chez les chrétiens. Alexandra prit la même décision. Et en 1983, ils se marièrent pour former un foyer stable, basé sur l'amour et la fidélité mutuelle, chose impensable auparavant. Leur résolution de changer n'était pas un feu de paille sans lendemain. Désormais, ils voulaient aider d'autres malheureux, et des années plus tard, ils pouvaient faire le bilan de cette nouvelle étape de leur vie. Deux enfants étaient nés dans leur foyer, et enfin heureux, ils étaient plus que jamais désireux de continuer à secourir ceux qui, comme eux, avaient laissé la haine et la violence, l'alcool et la drogue gâcher leur vie. Combien le Seigneur peut et veut faire une œuvre semblable dans votre vie pour vous sauver, vous délivrer et vous faire marcher vers le ciel, à condition que vous aussi, vous veniez à lui dans la repentance et dans la foi et le fassiez de tout votre cœur. Amen. Eh bien, je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu que nous voulons lire ensemble et nous voulons parler ce soir de l'importance d'avoir une véritable foi. L'Écriture nous dit, tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire qui croit véritablement. Il est marqué encore, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, c'est-à-dire si tu as cette véritable foi. Le grand problème de beaucoup de gens, c'est de passer de l'incrédulité à une véritable foi. Comment faire pour avoir une véritable foi, pour la recevoir et la développer ? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 14, et aussi au verset 17, il est marqué « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et aujourd'hui, c'est vrai, nous avons cette merveilleuse occasion d'avoir la foi et de la faire grandir pour que nous puissions faire l'expérience de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu et des miracles divins. Il est important aussi de se laisser toucher par la solennité de notre texte que nous voulons lire ensemble maintenant. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16, verset 19, il est écrit la chose suivante. Ceci sort directement de la bouche du Seigneur Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Nous avons ici l'exemple d'un homme qui est passé de l'incrédulité totale à la foi la plus grande en très peu de temps. Cet homme était aussi incrédule que le plus incrédule qu'il puisse y avoir à notre écoute ce soir, et peut-être plus encore. Et en quelques secondes, il a eu la foi plus que celui qui a la plus grande foi de ceux qui nous écoutent et de moi-même. Mais je ne voudrais surtout pas que vous suiviez l'exemple de cet homme-là. Et vous avez compris, je pense, pourquoi il ne faut pas suivre l'exemple de cet homme. Il a été incrédule sur la terre et il n'a eu la foi que dans l'au-delà, ce qui était trop tard pour lui être de quelque utilité. Combien il est important que nous nous laissions avertir tout d'abord par la solennité de notre texte. Voici une anecdote réelle. C'est lorsqu'un jour, une sirène d'alarme retentit sur une plage d'Australie. Un requin blanc, un mangeur d'hommes, a été aperçu non loin de la côte. Alors que tous s'empressent pour sortir de l'eau tiède, un nageur téméraire, sans tenir compte du signal, prend la direction du large. La bête s'approche de l'homme de façon inquiétante. Des témoins jettent des pierres dans la direction du nageur et finissent par attirer son attention. Le baigneur, réalisant qu'il y a quelque chose d'anormal, revient rapidement vers le rivage. Comprenant la nature du danger auquel il vient d'échapper, il remercie avec chaleur et avoue « Je n'ai rien entendu, car je suis sourd. » L'incapacité à saisir le signal d'alarme aurait pu lui être fatale. Le danger nous menace aussi. La conduite des hommes est parfois tellement suicidaire, que ce soit au niveau des sociétés ou des individus, qu'il faut des signaux d'alarme pour les mettre en garde. L'insécurité grandissante de nos sociétés modernes, les agressions en tout genre, ce qui se multiplie, l'abandon de toute référence, ne sont-ils pas le signal que le chemin suivi n'est pas le bon ? Laissons-nous instruire par les événements et l'histoire, qui nous montrent que ces faits interviennent toujours dans les sociétés décadentes. Dans le cœur de chaque homme, Dieu a placé la conscience du bien et du mal. Mais qui se laisse avertir par ce signal ? Dans la Bible, Dieu interpelle les hommes et les met en garde. Saurons-nous l'entendre, percevoir le danger, le grand péril de la perdition éternelle dont parle notre texte ? Pour que, revenons-en à notre texte justement, pour que la foi nous soit cause de salut et de bénédiction, il faut que nous la saisissions ici-bas et que nous la saisissions au moment où Dieu nous en présente l'occasion. Et cette occasion, c'est maintenant que la parole de Dieu est prêchée et qu'il y a avec nous un certain nombre de personnes qui ont la foi. Mais voici plusieurs questions qui se posent, au moins trois certainement, et que nous voulons considérer tour à tour dans la suite de ce message. La première, c'est qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'après la mort, c'est trop tard ? Qu'il n'y a pas une seconde chance, même une troisième, une quatrième, que sais-je ? Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le dit dans ce récit que nous venons de lire. D'autre part, n'est-il pas écrit aussi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, au verset 27 ? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je me souviens d'avoir eu un entretien avec un membre de la Rose-Croix, un rosicrucien donc, et c'était à la fin d'une réunion, d'une prédication, cet homme m'a présenté des objections, il m'a dit « Mais non, vous savez, nous ne vivons pas qu'une fois, nous vivons plusieurs fois, j'ai moi-même fait cette expérience, j'ai eu la révélation que dans une vie précédente, dans une existence précédente, j'ai été une personne de sexe féminin qui a vécu à tel endroit et qui portait tel nom et tel prénom. Et ensuite, eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller vérifier dans les registres paroissiaux et effectivement, tout correspondait de manière parfaite. Que dites-vous de cela ? Alors je lui ai dit, monsieur, vous êtes quelqu'un qui pratique les choses occultes, vous êtes quelqu'un qui pratique le spiritisme, le culte avec les esprits, et qu'est-ce qui s'est produit ? Eh bien, vous avez eu contact avec un esprit qui, comme son maître, est un menteur et un trompeur. Et il s'est fait passer pour une personne qui a pu vivre autrefois de manière à pouvoir vous induire en erreur. Mais en réalité, la réalité, c'est que vous et moi, nous n'avons qu'une seule vie. Et que c'était au terme de cette vie-là qu'il nous faudra rendre compte à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 8, au verset 20, il est marqué « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » La loi et le témoignage, c'est la loi et le témoignage rendu à la parole de Dieu. Voilà. Et je voudrais vous donner un autre témoignage, justement. Celui, à propos justement de la réalité de la perdition éternelle, celui de Dr Maurice Rawlings, qui donc était cardiologue, professeur de médecine à la faculté de médecine de Chattanooga, dans l'université du Tennessee. Et lui et ses collègues s'occupaient de patients en état d'urgence, dont beaucoup étaient passés par une expérience de mort clinique. Et il a fait une étude suivie de ces cas qui a été rapportée dans le magazine Omni. Et il n'est plus rare, concernant ces gens qui ont été ainsi tout près de la mort, de les entendre dire, après, qu'ils ont vu une grande lumière, ils ont vu des prairies magnifiques ou des défunts souriants qu'ils ont connus, en même temps qu'ils expérimentaient un profond sentiment de paix. Cependant, le docteur Rawlings a obtenu des informations additionnelles, plus précises, en les interviewant juste après leur retour de la mort, quand ils sont encore sous l'impression directe de leur expérience. Et ce docteur rapporte que dans près de 50% des 300 personnes qu'il a interrogées, il disait aussi avoir vu des lacs de feu, des personnages démoniaques et d'autres images exprimant l'obscurité de l'enfer. Rawlings dit ensuite que la plupart des personnes ont transformé leur récit plus tard, parce qu'ils ne voulaient pas admettre où ils avaient été, ni l'avouer à leur entourage. Et le fait d'écouter ces patients a changé toute ma vie, dit le docteur Rawlings. Il y a une vie après la mort. Et si je ne sais pas où je vais, il est dangereux de mourir. Le docteur Rawlings lui-même était un athée convaincu, considérant toute religion comme un fatras d'ineptie, et la mort comme rien de plus qu'une extinction de vie sans douleur. Mais un événement se produisit et amena un changement dramatique dans sa propre existence. Il était en train de ramener à la vie un homme terrifié qui poussait des hurlements. Et chaque fois qu'il retrouvait la respiration, que son cœur se remettait à battre, le patient hurlait « Je suis en enfer !» Il était terrorisé et me suppliait de l'aider, dit le docteur. J'étais totalement bouleversé. Alors j'ai noté son regard affreusement alarmé. Il grimaçait terriblement, d'une manière grotesque, qui exprimait une horreur absolue. Ses pupilles étaient dilatées, il transpirait abondamment, tremblait. Et puis une autre chose étrange s'est produite. Il dit « Vous ne comprenez pas, je suis en enfer. Ne me laissez pas retourner en enfer. » Il était extrêmement sérieux et je réalisais finalement qu'il était dans un état de trouble profond, un état de panique, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Et le docteur Rawlings d'ajouter que personne qui aurait entendu ses hurlements, vu le regard de terreur sur son visage, n'aurait pu douter un seul instant qu'il se trouvait à ce moment et réellement dans un lieu appelé l'enfer. Un témoignage à la réalité de la parole de Jésus. C'est la première question. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'après la mort, c'est trop tard? La deuxième question, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que cet homme était incrédule sur cette terre? Eh bien là aussi, nous avons plusieurs éléments qui nous le font bien comprendre. Cet homme, bien qu'au courant des choses de Dieu, était incrédule. Il avait une connaissance d'Abraham, de Moïse et des prophètes. Nous voyons qu'il appelle Abraham son père. Et ceci nous montre qu'il se prenait pour un croyant. Il pensait avoir la foi, mais il confondait une croyance avec la foi. Il confondait une religion avec la foi. Il confondait une éducation religieuse avec la véritable foi. Or, ceci peut être extrêmement différent, et dans son cas, ça l'était. Ensuite, en deuxième, cet homme était incrédule parce qu'il voulait vivre pour les plaisirs du monde avant tout. C'est une évidence, lorsqu'on lit le verset 19. Il était riche, il avait du temps, il avait la santé, et il avait toutes sortes de bonnes choses. Chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie, mais ne s'occupait absolument pas de la volonté de Dieu ni du plan de Dieu pour son existence. L'Écriture nous dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon » dans Luc chapitre 6 et verset 13. Et puis, cet homme aussi était incrédule, et c'est évident, parce qu'il ne s'occupait absolument pas des besoins de Lazare. C'est ce qu'on voit, Lazare était à sa porte de la misère, et il ne s'en occupait pas. Sa foi n'existait pas parce qu'il n'avait pas d'œuvre pour la démontrer. Vous savez, il existe des quantités de gens qui ont des besoins de santé, des besoins matériels et plus encore des besoins spirituels. Et le devoir de tout véritable croyant, c'est de donner autant convenable à chacun ce qui peut lui convenir. Et nous remarquons que dans cette anecdote, les chiens, sur ce point, avaient plus de foi et de compassion que lui. La foi sans les œuvres est morte, nous rappelle l'apôtre Jacques dans son épître. Et puis, une quatrième raison pour laquelle nous pouvons comprendre qu'il n'avait pas la foi, c'est qu'il n'avait jamais levé les yeux avant d'arriver dans le séjour des morts. Le verset 23 nous dit clairement cela. Avons-nous déjà levé les yeux ? Au printemps 2002, entre autres, les électeurs en France étaient appelés à voter pour les présidentielles et pour les législatives en même temps. Et sur France Inter, le 10 juin, un ancien Premier ministre, voulant mobiliser pour le second tour, appelait solennellement à bien voter car, disait-il, quelques minutes engageaient les Français pour 5 années. Quelques minutes engageaient les Français pour 5 années. L'éternité est une période autrement plus importante et plus longue qu'une législature. Comment abordons-nous l'éternité ? Craintif, insouciant ou confiant ? À un moment ou à un autre, la question de l'importance et de l'intérêt de la vie se pose à tout individu. La mort est-elle la fin de tout ? Comment préparer l'après-retraite, si je puis m'exprimer ainsi ? Car quelquefois, le grand passage se fait très jeune. Pour ma part, j'ai choisi cela depuis longtemps, j'étais alors étudiant, de m'appuyer sur les promesses divines, celles de la paix du cœur, de la conscience, en cotisant gratuitement, dirais-je, par une confiance totale en Dieu. Et le message d'en haut demeure toujours d'actualité au XXIe siècle. Que beaucoup puissent dès maintenant opter pour une après-retraite, sans mauvaise surprise, par la foi en Jésus-Christ. Il est l'unique sauveur, il est vivant. Et puis nous voyons encore un cinquième élément qui nous prouve son incrédulité, c'est qu'il veut se servir des autres et pas les servir. En commençant par Abraham, il a voulu se servir d'Abraham pour être soulagé. Il a voulu se servir de Lazare. Et même, il a voulu se servir de Dieu pour en arriver à ses fins. Et la véritable foi, elle, passe par le service de Dieu. C'est-à-dire le fait de servir Dieu et surtout pas de se servir de Dieu. Avec l'accomplissement, le bonheur, l'épanouissement qui y sont liés. Enfin, une sixième chose, considérez, d'après le verset 30, que cet homme n'a jamais voulu se repentir. Il en reconnaît la valeur dans ce passage, mais jamais, pendant son existence terrestre, il n'a voulu se remettre en question. Admettre ses torts, admettre ses manques, admettre, reconnaître son besoin urgent de changer en profondeur. Jamais il n'a crié à Dieu pour être pardonné. Jamais il n'a crié à lui pour être secouru, pour marcher en nouveauté de vie avec son secours. Jamais il n'a demandé à Dieu de le secourir pour l'aider à lui soumettre sa vie et à se soumettre à la parole de Dieu. Et dirais-je, à cause de tout ce faisceau d'arguments, nous pouvons dire et affirmer que cet homme a été un incrédule, peut-être pas en théorie, mais en tout cas en pratique et en réalité, parce que c'est cela qui compte. Et même, nous pouvons considérer qu'il n'est qu'un exemple de beaucoup d'incrédules, dont plusieurs peuvent d'ailleurs être à notre écoute ce soir. Et si j'en parle, c'est en connaissance de cause, puisque j'ai moi-même été dans ce triste état pendant bien des années, avant d'être dévoilé comme tel, et de le reconnaître, et de me tourner vers le Dieu vivant qui m'a fait grâce et m'a donné la foi véritable. Béni soit son nom. Amen. Mais ceci nous amène à notre troisième grande question. Qu'est-ce qui vous permet de dire que cet homme a plus de foi que n'importe qui ici ? Qu'est-ce qui vous permet de dire que cet homme a plus de foi que n'importe qui ici ? Et là, nous avons encore tout un éventail de preuves, au moins 8. Déjà, enfin maintenant, il comprend la valeur de la vraie foi. Combien il s'attache à l'expression « Père Abraham » au verset 24, au verset 27, au verset 30, par trois fois donc dans notre passage. Il dit « Père Abraham ». Eh oui, c'est vrai, Jésus dit que la femme courbée par un démon, qui a été délivrée par lui, était une fille d'Abraham, elle avait la foi. C'est ce qui a permis qu'elle soit délivrée. Zachée le publicain, qui a été transformé, changé par la puissance de Dieu, était aussi un fils d'Abraham, suivant ce que Jésus a pu dire de lui. Il est marqué que tous ceux qui ont une foi comme celle d'Abraham sont fils et filles d'Abraham. Ah, si vous vous attachiez à la foi comme cet homme essayait de le s'y cramponner désespérément à ce moment-là, quelle œuvre de salut se ferait en vous ? Quels exaucements de prières ? Quelles bénédictions se produiraient alors ? La deuxième preuve qu'il a la foi, c'est que maintenant, il comprend la valeur de la grâce. Le verset 24 nous montre qu'il implore la pitié. Oh, mes amis, ne s'appuie pas sur ses œuvres. Elles sont inexistantes. Il ne s'appuie pas sur sa propre justice. Il voit bien qu'elle n'a aucune valeur. Ni sur ses mérites. Il discerne combien ils sont insuffisants. Il reconnaît l'utilité de ces choses. Seule la grâce peut lui être d'un quelconque secours. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, dit « Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Qui implorera la grâce de Dieu comme lui, mais ce soir ? » Et puis le voici enfin, en troisième, qui comprend la valeur du service. Ah oui, maintenant il demande un service. Il demande qu'on lui rende un tout petit service à ses yeux. Combien il comprend maintenant la valeur du soulagement d'autrui, lui qui ne s'en préoccupait pas auparavant. Dans Matthieu chapitre 10, au verset 42, le Seigneur Jésus encore nous dit « Celui qui donnera ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, ne perdra point sa récompense. » Et ceux qui ont la foi ont ce désir de s'engager au service de Dieu et des autres. Qui veut le faire aujourd'hui ? Il comprend aussi maintenant, d'après le verset 26, la valeur du ciel. Hein, ça aussi, c'est une preuve. Il voit de loin ce lieu qui lui paraît si merveilleux et qui pourtant n'est pas encore le ciel, c'est le sein d'Abraham. Et pourtant, combien il aimerait y avoir accès à cet instant. Voir le ciel, voir la perdition, se pénétrer de ces réalités qui sont des fondements de la foi. Voilà qui nous est aussi nécessaire aujourd'hui même. Et puis, en cinquième, il comprend maintenant la valeur de la prière. Voyez comme il s'adresse à Dieu. Voyez comme il crie à lui. Ah, il aurait agi auparavant à l'égard de ceux qui crient à Dieu, peut-être en se moquant d'eux, peut-être en les rejetant. Hein, et ça aussi, c'est une réalité. Et voyez comme il prie avec persévérance, comme il prie jusqu'au bout. Eh bien, mes amis, mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'il nous faut croire à la prière. C'est aujourd'hui qu'il nous faut intercéder avec ferveur de tout notre cœur et jusqu'à obtenir ce que Dieu veut accorder comme réponse à la prière. Et puis il comprend aussi maintenant la valeur des témoins. Oh, il demande que soit envoyé un témoin à ses frères qui sont encore dans l'existence terrestre. Vous savez, il y a des témoins qui sont envoyés. Il y a des prédicateurs qui sont envoyés. Il y a des messagers qui parlent de leur expérience. Et combien ces témoins, dont ceux que nous avons pu entendre, dont nous avons pu entendre un petit peu ce soir, combien ces témoignages sont importants. Combien c'est cela que Dieu soutient, que Dieu approuve. Je vous donne encore ce témoignage. C'est un témoignage d'un missionnaire qui a travaillé en Afghanistan. Et il parle de cette région reculée d'Afghanistan où la misère était bien grande. Et dans ce petit camp qui était composé d'une cinquantaine de familles, ce missionnaire Robin venait régulièrement, il n'y avait plus de nourriture. La plupart des enfants étaient léthargiques, malades, et tout le monde suppliait Robin de les aider. Il fut invité à entrer dans une des petites tentes où une femme gravement malade était alitée. « Je ne suis pas médecin, je ne peux rien faire, » dit-il. Une foule l'avait suivi, entourait la tente. En lui-même, une voix lui dit « Tu peux faire quelque chose. Tu peux prier. Montre-leur ma puissance. »« Ah, mais c'est trop risqué, Seigneur, » répondit-il en lui-même. Il demanda la permission d'intercéder pour la malade. En pleurant, il pria « Ah, Seigneur Jésus, utilise cette souffrance pour montrer à ces gens abandonnés que tu les vois et que tu les entends. Guéris cette femme au nom de Jésus. » Et en sortant de la tente, il dit à la femme « Je ne sais pas ce que je peux faire pour vous, mais je sais ceci. » Dieu vous entend, il vous voit, priez-le, il vous donnera de l'espoir. Deux jours plus tard, Robin revint. Beaucoup coururent vers lui en criant, il nous a entendus, il nous a vus. En effet, le lendemain de sa visite, deux différentes ONG avaient apporté du pain, de l'huile, d'autres produits de première nécessité. Quant à la femme qui avait été alitée, elle était complètement guérie. Est-il étonnant que les mois suivants, plusieurs personnes de ce camp se convertirent à Jésus-Christ ? Ce missionnaire n'avait que son témoignage et la prière dans cette situation. Mais le Seigneur a appuyé et confirmé son témoignage en exaucant miraculeusement. Et il fera de même pour tous ceux qui ont à cœur de témoigner et pour tous ceux qui écoutent le témoignage et le prennent au sérieux en se tournant vers le Seigneur dans la foi et la supplication. Amen. J'en reviens à mon mauvais riche qui se trouvait là dans cette terrible situation. Et pour montrer qu'il y avait la foi maintenant, il comprend aussi la valeur de la repentance. Eh oui, dans le verset 30, il réalise bien qu'il faut que ses frères se repentissent. Il a bien compris, il a bien saisi que la repentance est le seul moyen pour ne pas aller dans le lieu de tourment. Il n'y en a pas d'autre. C'est pourquoi, dans le deuxième chapitre du livre des Actes des Apôtres, il est marqué « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et aujourd'hui encore, c'est cela qui est nécessaire à tout homme. Et puis il comprend aussi la valeur de la parole de Dieu. C'est notre huitième et dernier point. Oui, c'est vrai. Il a fait une erreur. Il a pensé que le miracle de la résurrection de Lazare ferait croire ceux qui ne voulaient pas obéir à la parole de Dieu. Mais Abraham lui affirme le contraire. Et ceci le touche et le frappe comme la foudre, au point qu'il n'a plus rien à dire par après. C'est la parole de Dieu qui doit être acceptée en premier. C'est cela qui est primordial et nécessaire. Alors, toutes sortes de miracles peuvent se produire dans une existence. Cet homme l'a compris, mais trop tard. Il a eu la bouche fermée à ce moment-là. Encore un témoignage, celui de cette dame âgée qui, enfin, plus exactement, de ce chrétien qui vint rendre visite à une dame âgée qui faisait partie de sa famille après, c'était un ami de la famille, et après les salutations d'usage, une discussion s'engagea, et le visiteur en vint à demander à son hôtesse si elle possédait une Bible. « Bien entendu, répondit-elle, quelle question, nous sommes de bons chrétiens !» Et se tournant vers sa fille, elle lui demanda d'apporter la grosse Bible qui se trouvait dans la bibliothèque. Le visiteur assura qu'il la croyait sur parole, qu'il était inutile d'aller chercher la Bible. Mais la dame insista, et bientôt la Bible se trouva devant elle, entourée d'un linge qui devait la préserver de la poussière. La vieille dame défit consciencieusement l'emballage, et bientôt une magnifique Bible à la couverture de cuir apparut. Mais il semblait y avoir une anomalie dans cette Bible. Manifestement, elle avait été refermée sur un objet. En ouvrant le livre, la dame s'exclama alors « Oh, mes lunettes ! Voilà des mois que je les avais égarées et que je les cherche partout. J'aurais pu les chercher encore longtemps. Que je suis heureuse que vous m'ayez parlé de ma Bible, cher monsieur. Voilà un souci de moi et une énigme enfin résolue. » Le visiteur pouvait en tout cas conclure que cette Bible n'était pas souvent ouverte. Or, comment peut-on se prétendre disciple de Christ en délaissant sa parole et les instructions qu'il nous a laissées, afin que nous sachions comment nous conduire en tout domaine pour éviter le mal et orienter notre vie vers le bien et l'éternité avec Dieu? Certains s'imaginent, comme cette brave dame, qu'ils seront sauvés grâce à une vague foi et une pratique religieuse encore plus vague. C'est là s'illusionner quant à son devenir réel. C'est seulement dans la Bible que l'on apprend à connaître Jésus, le Sauveur des hommes. À tous, il rappelle que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors mes amis, en conclusion, ayez une foi comme celle de cet homme, mais ayez-la maintenant, pendant qu'il est encore temps, passant par une véritable repentance, passant par l'acceptation pleine et entière de la parole de Dieu, considérant la valeur des témoignages, de la prédication, vous engager dans l'obéissance et le service pour le Seigneur, et que vous puissiez prouver ce bon désir qui est en vous en le faisant dès maintenant, en faisant dès maintenant monter une prière sincère et fervente vers votre Sauveur. Et pour conclure, un dernier témoignage. Après un naufrage, la mer rejeta sur le rivage quelques restes du navire qui avait sombré. Parmi eux, dans la poche d'une veste, on trouva un Nouveau Testament. Sur la page de garde de ce livre était inscrite, outre les noms du marin à qui il avait appartenu, ces trois petites phrases. Lues pour la première fois pour faire plaisir à ma sœur Lotte. Lues pour la seconde fois par crainte du jugement de Dieu. Lues pour la troisième fois, et de nombreuses autres, par amour pour Jésus-Christ mon Sauveur. Par ces quelques lignes, un homme résumait le cheminement qui fut le sien jusqu'à sa rencontre avec Dieu. La Bible lui avait montré, après des millions d'autres, le Christ mourant sur la croix à sa place, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. Certes, il n'avait pas compris cela tout de suite, dès la première lecture, mais petit à petit, il réalisa que Dieu l'aimait et voulait le sauver. Alors, sans plus tarder, il a dû se jeter à genoux, demander le pardon de Dieu et résolument, avec son aide, changer de manière de vivre. La Bible n'était dès lors plus pour lui ce livre qu'il s'était forcé à lire pour faire plaisir à sa sœur. Elle était la parole vivante de Dieu qui lui parlait chaque jour, qui le fortifiait et nourrissait son âme. Amis auditeurs, connaissez-vous la Bible, l'Évangile de cette manière? Lisez et relisez le Livre Saint jusqu'à ce que vous ayez trouvé celui de qui il rend témoignage. Amen. Mais Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu nous donnes. Nous te remercions pour l'appel que tu adresses à chacun. Te remercions parce que tu nous indiques le moyen d'échapper à la perdition et d'aller d'une façon assurée vers le ciel de gloire. Te remercions, Seigneur, de ce que tu es celui qui pardonne à ceux qui se tournent vers toi dans la repentance et dans la foi. Et merci, Seigneur, pour ceux qui, parmi mes auditeurs, le font maintenant de tout leur cœur et sur la vie desquels tu mets la plénitude de ta grâce, de manière à ce qu'ils puissent être pardonnés, qu'ils puissent être transformés, qu'ils puissent réaliser toute ta miséricorde, qu'ils puissent réaliser ton amour, s'attacher avec foi à ta parole de vie. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, mes amis, mes frères et sœurs, juste pour conclure quelques annonces. Notre première réunion de reprise à l'église a donc eu lieu ce mercredi 17 au soir et s'est, je pense, déroulée dans de bonnes conditions, en tout cas pour ce programme qui impliquait pas mal de changements par rapport à l'habitude qu'on avait avant. Merci encore pour la bonne volonté, le désir de bien faire qu'ont montré tous les participants, même si certaines choses ont pu paraître un peu bizarres dans un premier temps. Nous avons pu tout de même partager ensemble, prier ensemble, nous réjouir ensemble, louer le Seigneur ensemble, prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. Ce qui est tout de même un avantage par rapport aux semaines passées. Certains diront que c'est un petit commencement, mais nous nous souvenons que le Seigneur ne méprise pas les petits commencements ou recommencements et qu'il est attentif quand ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Nous envisageons donc de continuer sur cette lancée mercredi prochain. En attendant, il y aura, Dieu voulant, la prédication du culte sur notre site, comme d'habitude, dimanche matin, ainsi que le partage des sujets de louange et d'action de grâce sur WhatsApp le même jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne dans la voie du salut et de la vie éternelle, jour après jour.